j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo directe sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez Le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique.
Du 3 au 13 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Les Goules, avec Podcast, Dalton Telegram, Yann Perrault, Laurence Nerbonne, Saratoga, Gap Paquet, Violette Pie, Pontex, Cliché, Philippe Braque et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM.
Danscussion à la radio, là où l'on parle de danse, de culture et d'art du mouvement.
Avec les artistes, les travailleurs culturels, les spectateurs, les amoureux du spectacle.
Tout le monde en parle.
Tous les mardis de live sur choc.ca.
Maudit que je m'endors. Je pense que j'ai besoin d'un café. Téléphone intelligent, dis-moi où est le Tim Horton le plus proche.
Fuck le Tim Horton.
Quoi?
Va donc au Salon G à la place au Salon G. Le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier. C'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à cochon.
Situé au niveau métro du pavillon Aquin, le Salon G, c'est la place pour te sustenter.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast. Musique. Découverte. Sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
Thank you. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à Demi-tour à l'heure, édition du 26 octobre 2016. Étienne Lapointe au micro de choc.ca et avec vous pour la prochaine heure comme d'habitude. C'est le dernier mercredi d'octobre et qui dit la fin du mois d'octobre dit bien entendu Halloween. Et en ouverture, vous l'avez certainement reconnu, le thème du film Halloween dont la version originale a été réalisée par John Carpenter en 78. Carpenter, qui était aussi le compositeur de la bande sonore du film, un détail que j'ai appris en préparant l'émission. J'ignorais complètement que Carpenter écrivait aussi les musiques de ses films. Halloween, qui était un des plus grands classiques de l'horreur, qui m'a, moi, personnellement, profondément marqué quand je l'ai vu au début de mon adolescence, quand je l'ai vu la première fois. J'ai été vraiment perturbé, ça m'a empêché de dormir. C'est peut-être là aussi que j'ai décidé d'arrêter de passer l'Halloween, je me souviens plus. Un film qui a aussi donné plusieurs suites. On s'est rendu jusqu'à 5 Halloween en l'espace de 10 ans, soit de 78 à 88. On a aussi sorti plus tard H20, 20 Years After, pour souligner les 20 ans du film, de la sortie du premier film en 1998. Et dans cette nouvelle mouture, Jamie Lee Curtis, qu'on découvrait dans le tout premier film et qui joue aussi dans le second, reprenait son rôle de Laurie Strode, sœur du tueur du slasher qu'on suit à travers toute la série, à l'exception du troisième de Season of the Witch, si je ne me trompe pas, qui est complètement distinct, à moins que ma mémoire me plonge dans l'erreur, mais bon, il me semble qu'il était un petit peu hors série, malgré le fait qu'il portait le titre de Halloween 3. Curtis incarnait aussi à nouveau Laurie dans Halloween Resurrection en 2002. Bon, je rappelle un peu l'intrigue. Hein, l'histoire de Halloween, Michael Myers récemment évadé de l'hôpital psychiatrique dans lequel il est reclus depuis l'enfance, pourchasse sa sœur Laurie, beaucoup plus jeune, pour finir l'œuvre entreprise une quinzaine d'années auparavant, soit le meurtre de sa famille. Joyeux. La petite Laurie n'est alors qu'un poupon. Elle ne se souvient de rien, bien entendu, et a grandi en famille d'adoption. Donc, elle ignore quelle est la sœur. Elle ignore même un peu qui est Michael Myers. Au passage, Myers va, bien entendu, semer la terreur dans la petite ville d'Haddonfield et est poursuivi par son psychiatre, le Dr. Loomis, qui va finir par le tuer, mais à moitié, parce qu'évidemment, Myers revient de film en film. En 2007, Rob Zombie, le célèbre chanteur et producteur métal, a réalisé un remake du film original dans lequel le personnage de Michael Myers est, à mon avis, beaucoup plus intéressant. On approfondit beaucoup la psychologie du tueur et, ironiquement, mais ça le rend plus humain. Alors que dans les premiers films, c'était un tueur un peu un maniaque, un peu banal, et on n'entrait pas dans sa psyché, il était tout simplement masqué, puis il faisait peur à tout le monde, quoi qui était un peu plus terrifiant, je trouve, que le suivant. On a aussi eu droit à un remake du deuxième film de la série, toujours par Rob Zombie, en 2009, si ma mémoire est bonne. Et pour rester, donc méfiez-vous, hein, le soir de l'Halloween, parmi tous les jeunes déguisés, il pourrait y avoir un véritable slasher. Pour rester dans le thème de l'Halloween, alors que tout plein de gens vont être déguisés en vampires pour les parties de la fin de semaine qui s'en vient, on plonge ce soir dans l'univers glauque, gothique et angoissant de Bauhaus, un groupe que j'avais envie de faire tourner depuis un bon moment déjà ici à Demi-tour. On associe souvent le groupe Bauhaus aux vampires, en raison surtout de leur premier single, paru en 1979 sur Small Wonder Records, single qui avait pour titre Bela Lugosi's Dead, une pièce qu'on peut entendre aussi dans le générique d'ouverture du film The Hunger, un film où les vampires sont à l'honneur, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui met en vedette nul autre que Catherine Deneuve, David Bowie et Suzanne Sarandon. Je rappelle, si cela est nécessaire, que le Bela Lugosi de la chanson est un acteur hongrois qui a migré aux États-Unis au tournant des années 20 et qui s'est rendu célèbre en étant le premier acteur à incarner le comte Dracula au cinéma en 1931. Il avait aussi incarné le comte dans une version théâtrale adaptée pour le théâtre du roman de Bram Stoker. Et il a aussi joué dans de nombreux films d'horreur, donc sa réputation s'est bâtie beaucoup sur l'horreur. Alors ce soir, on écoute Bauhaus et leur premier album, In the Flatfield, qui est paru en 80, un album qui a été encensé dans certains fanzines à l'époque et qui avait connu un succès certain sur les campus universitaires anglais, mais qui avait été complètement démoli par les critiques et les magazines un peu plus traditionnels comme le NME. Là, j'ai oublié de noter la critique, mais en tout cas, ils trouvaient ça d'une platitude épouvantable. Mais c'est avec cet album-là qu'ils vont vraiment établir leur son, qu'ils vont être perçus comme étant les fondateurs du gothique. Et aujourd'hui, ils sont encensés, comme c'est souvent le cas, hein, des albums qui passent mal à leur sortie et qui deviennent des classiques un peu plus tard. Donc, on envoie ça immédiatement. Ça s'ouvre avec Double Day. On se reparle et on parle un petit peu du groupe au retour. À tantôt.
We'll be right back. Let me catch the slip of life for maiden's sake and maiden flight. In the flat field I do get bored, replaced with Piccadilly horse. In my ear for some cerebral fix, transfer me to that solid plane.
Oh,
Bonsoir, de retour à 2000 tours à l'heure avec Étienne Lapointe au micro de choc.ca. Ce soir, on se paye une petite soirée vampire, du moins la musique qui inspire ou inspirée des vampires, à ce qu'on dit. On écoute Bauhaus et leur premier album In the Flatfield, paru en 1980. Bauhaus est un groupe britannique issu de Northampton en Angleterre, dans les Midlands, donc comme son nom l'indique, dans le milieu du pays. Le groupe est formé du chanteur Peter Murphy, du guitariste Daniel Ash, de David G à la basse et de Kevin Haskins à la batterie. Le nom du groupe est directement inspiré de l'école d'art et d'architecture allemande, du même nom, bien entendu. D'ailleurs, au début, le groupe avait pour nom Bauhaus 1919, étant l'année à laquelle les activités de l'école ont commencé. Elles vont durer jusqu'en 1933, année de l'arrivée au pouvoir des nazis qui considéraient l'école comme anti-allemande, et ce qui va la forcer, bien entendu, à fermer ses portes. Mais on a encore, évidemment, les architectes qui y travaillaient ont continué à œuvrer dans le milieu. On a d'ailleurs une pièce ici de Miss Van Der Rohe, un des... J'oublie complètement son nom, j'oublie où elle est située, mais une pièce de béton, donc de Miss Van Der Rohe, un des directeurs de l'école. Le groupe de musique, en plus du nom, va aussi s'emparer du logo et est un phénomène assez unique dans l'univers musical de l'époque, donc un peu comme l'école elle-même l'était en son temps, c'est-à-dire les années 20. Rapidement associé au rock gothique naissant en raison des thèmes abordés dans les paroles des chansons, une approche musicale assez sombre, comme on a pu constater à l'écoute de la première face, et une esthétique scénique tout en contraste, hein, beaucoup de noir et un tout petit peu de lumière blanche. La vie du groupe va être assez éphémère et en 83, après seulement 4 albums studio et un live, le groupe va se séparer. Le live qui a un titre vraiment savoureux, un Press the Eject and Give Me the Tape, donc ça appartient très bien à son époque. Donc Murphy va poursuivre une carrière solo plus ou moins remplie de succès, mais supportée tout de même par un public de fidèles. Il y a quoi, 7, 8, 10 albums à peu près depuis la séparation du groupe. L'album Deep, paru en 89, est certainement le plus connu avec le hit Cut You Up dessus. Un bon album quand même. Les 3 autres membres du groupe vont travailler sur divers projets, mais surtout, ils vont former le trio Love and Rockets, dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Donc si vous avez manqué l'épisode et ça vous intéresse, on avait fait tourner Teenage... J'oublie complètement le titre de l'album, en tout cas le deuxième album de Love and Rockets. Bauhaus va se reformer pour une tournée, un album live en 98, l'album qui s'intitule Gotham, et à nouveau en 2005 et 2006. Et en 2008, on va nous offrir un album de nouveau matériel, Go Away White, qui est un peu passé inaperçu, soit dit en passant. Et parmi les grands moments de Bauhaus, on note l'album Sky's Gone Out, dont la réédition CD comprend une version un peu plus rock, moins glam, de Ziggy Stardust et David Bowie. Et tous les albums de Bauhaus ont fait l'objet de rééditions, on comprendra, dès la sortie des CD à la fin des années 80, et des rééditions augmentées de plusieurs chansons. D'ailleurs, une de Flatfield est rééditée en 88 et passe de 9 chansons à 17, donc presque tous les albums comme ça ont connu une augmentation substantielle de la quantité des chansons. On passe généralement au double. Pour l'introduction au groupe, si ça vous intéresse et vous n'avez pas envie d'acheter un album parce que vous ne savez pas lequel acheter, mais il existe une excellente compilation en 2 volumes qui est parue en 85, donc à peine 2 ans après la séparation du band, qui a pour titre tout simplement Bauhaus 1979-1983. C'est en 2 volumes, c'est assez complet et c'est excellent. Donc si ça vous allume, allez écouter ça. On va se quitter quelques instants, une quinzaine de minutes pour la deuxième face, sur laquelle on retrouve aussi une autre pièce que joue dans un film d'horreur, Night of the Demon, si je ne me trompe pas, un film qui est sorti en 88, la pièce Stigmata Marches, ça va être la troisième, oui, de cette face-là. Donc, c'est là, ça part de crucifixion, c'est super joyeux. À tantôt.
Sting in his tail. Slip me a line and it's meaning and depth. There's no small talk with walkie talkers. Small talk stinks.
Small talk stinks.
I said it stinks.
Small talk stinks.
Small talk stinks.
Small talk stinks.
nothing, chit chat, back chat. There's no idle gossip in Braille. Taking calls 3 times a day, twice an hour. I dedicate to live from wall to wall, standing line for the photo call. See the small young man.
Small talk stinks.
I said it stinks.
Small talk stinks.
Small talk stinks.
Small talk stinks.
Small talk stinks.
Ah!
sensation, ecstasy, lying cross-checked in agony. Stick my top lead continuously, holding hands and feet on people. Stigmata, oh, you sorrowed sight. Stigmata in your splintered light. Look to your crimson orifice in holy remembrance in scarlet lips.
We'll be right back. telltale tongues lick at seven senses. Brittle spittle sparks, you are defenseless.
The fabric of dreams is ripped apart as you feel the twist of the shadow dagger in your pumping heart. No!
De retour à 2000 tours à l'heure avec Étienne Lapointe au micro de choc.ca. On vient donc d'entendre la deuxième face de l'album In the Flatfield du groupe britannique Bauhaus, un des premiers albums qu'on attribue au rock gothique qui va naître à peu près à ce moment-là. Et on va d'ailleurs se quitter avec une longue pièce, un gros 9 minutes et demie, qui est le premier single justement du groupe Bauhaus dont j'ai parlé un peu plus tôt, Bela Lugosi is Dead, écrite en l'honneur de Bela Lugosi, le premier acteur à avoir incarné Dracula au cinéma, comme je le mentionnais un peu plus tôt. La semaine prochaine, on va certainement rester dans le thème rock gothique, possiblement industriel. J'ai bien envie de faire jouer du Ministry, fait que ça risque fort d'être ça. Restez, suivez-nous sur Facebook si pour connaître ce qu'on décidera de faire jouer d'ici la semaine prochaine. On vous invite aussi, si vous voulez écouter ou réécouter les épisodes de 2000 tours à l'heure, à vous abonner via iTunes ou par Google Play Store, ou aussi tout simplement aller l'écouter via la page de choc.ca. Donc on se quitte avec Bela Lugosi is Dead. C'était Étienne Lapointe au micro de choc.ca qui vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne nuit. À la semaine prochaine.
Just have